Voyage au bout de la mémoire, une émission hebdomadaire de Qasmi Mhend, réalisée par Zubir Ketani.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Qui sont donc ces soufis dont le nom vient de la laine dont ils se vêtaient? Qui sont ces ancêtres spirituels de Sidi Boumedien de Tlemcen, Sidi Abdrahman d'Alger, Sidi Ahmed Ben Youssef de Midiana, Sidi Ahmed de Tijani, de l'émir Abdelkader et de son maître Mahyiddin ibn al-Arabi? Il y a un appel, un désir, le feu intérieur intense qui exalte l'être qui entre dans la voie. C'est le soufi. Le soufisme, c'est l'expérience qui d'étape en étape élève le disciple. Marcher sur les traces des maîtres, suivre le secret des prophètes et des sages, méditer et pénétrer le sens caché du Coran. Alors, la vérité se dévoile. Plus rien ne sépare le soufi de l'être essentiel. apporter quelques rudiments de connaissances, en réalité une modeste grille de lecture et de décodage de la mystique musulmane qui imprègne de bout en bout notre identité maghrébine et algérienne. Telle est la modeste contribution que nous nous proposons d'apporter à toutes les auditrices et auditeurs qui veulent décoder à leur tour les traces encore bien vivaces aujourd'hui du dense héritage spirituel de ces maîtres pas comme les autres. Le soufisme, en arabe at-tasawwuf, est un mouvement de spiritualité de l'islam désigné par le mot tasawwuf, lequel est traduit par soufisme en français. Les soufis se regroupent en confréries dont les premières sont nées en terre chiite sous l'impulsion de Jalaluddin al-Rumi au XIIe siècle de l'ère chrétienne. Le mot soufisme aurait été forgé à partir du mot as-sufiya, qui désigne en arabe l'homme qui a réalisé pleinement sa spiritualité et qui est arrivé au terme de la voie. Tous les gens qui suivent le chemin du tasawwuf ne sont pas des soufis, mais seulement des aspirants, mouridin à la voie spirituelle, guidés par des soufis ou encore des maîtres spirituels. Le tasawwuf consiste à pratiquer l'islam tout d'abord comme tous les autres musulmans et à en faire plus, tant au niveau des prières que du jeûne. On retrouve aussi des pratiques ascétiques pour purifier l'ego et surtout le dhikr qu'on pourrait traduire par rappel ou encore mémorisation, qui consiste à se remémorer Dieu, notamment en répétant des noms divins, seul ou à plusieurs. Il est à noter qu'il existe plusieurs modalités de dhikr, dont les deux principales sont le dhikr intérieur ou qalbi et le dhikr vocal ou jahr. Une autre pratique régulière que l'on retrouve dans le tasawwuf, c'est la récitation de bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le tasawwuf a pour but de conduire au degré de l'excellence de la foi et du comportement al-ihsan, qui, par la purification du cœur, conduit à la sincérité spirituelle, ikhlas, permettant d'accueillir la lumière divine, toute la lumière divine, par laquelle on connaît, par laquelle on voit. Mais peu, en réalité, arrivent à cette étape. Celui qui arrive au but, celui qui a cette chance, le soufi, après avoir mené le grand combat, dépouillé de son individualité égo et délivré de toutes les visions partielles et illusoires qui y sont attachées, prend vie en Dieu et n'agit plus que par lui, ainsi qu'il l'a dit, selon un hadith qudsi rapporté par Bukhari. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose que j'aime davantage que par les actes que je lui ai prescrits. Il ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit. Les gens du tasawwuf, souvent critiqués par ignorance ou par envie, produisirent un certain nombre de versets ou de hadiths pour confirmer leur pratique. Du dhikr, par exemple, par ce verset coranique, quoi qu'il y en ait d'autres qui aillent tous dans le même sens. Coran, sourate 18, verset 28. Reste en la compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur en désirant sa face. Voici par ailleurs le propos d'un maître spirituel actuel. L'islam est la religion de l'unicité de Dieu, de l'amour et de la paix. Il symbolise l'effort permanent, le combat incessant pour l'excellence du comportement et la sincérité du culte. Le soufisme en est le cœur. C'est la voie de la connaissance de Dieu et de la sérénité de l'âme. Hamza al-Qadiri al-Butshishi. Le soufisme n'a rien à voir avec le courant monastique chrétien, car le Coran récuse clairement la vie monastique. Une sourate du Coran l'explicite de manière très claire. Ils, les chrétiens, ont inventé la vie monastique que nous n'avions nullement prescrite, poussée par le désir de plaire à Dieu. Ce que l'on nomme généralement étymologie concernant le mot soufi ne sont en fait que des similitudes phonétiques. La première similitude viendrait de l'arabe safa ou safou, clair, limpide, qui signifie pureté cristalline. Une autre viendrait d'Ahl Sofa, les gens du bon, en référence à ceux qui vivaient dans la mosquée du prophète à Médine et qui furent mentionnés dans le Coran comme la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face et qu'on aurait désigné par le mot « soufia ». Cette deuxième similitude est parfois comparée à « Ahl Saf », les gens du rang, dans le sens de premier rang béni et élite de la communauté musulmane. La troisième de ces équivalences serait tirée de « Asof », tout simplement la laine, du fait que les gens pieux de Koufa s'en revêtaient. Quant à la quatrième, elle dériverait de « Sofat al-Kafa » ou « éponge molle » en référence au cœur du soufi pur et réceptif. L'hypothèse la plus courante est que le mot soufi et ses dérivés viennent de l'arabe sauf signifiant laine. C'est elle que retient Ibn Khaldun notamment. Le soufi porte en général un vêtement de laine en signe de modestie, comme le prophète et les pauvres. La modestie et la pauvreté sont évoquées dans d'autres noms donnés à certains d'entre eux. Derviche en farsi derwish, mendiant ou fakir, pauvre, pour désigner ceux qui sont prétendants à l'entrée dans un ordre soufi. Le soufisme est reconnu par les quatre grandes écoles juridiques sunnites, madahib, et les quatre fondateurs sont reconnus pour être eux-mêmes des soufis, au sens véritable du mot, c'est-à-dire des saints, et par les chiites comme une expression de la foi musulmane. Le terme soufi désigne un individu parvenu à la réalisation spirituelle totale, mais un aspirant à une telle réalisation intérieure devrait être appelé mutasawwir. Les maîtres soufis se sont servis de la terminologie coranique pour décrire différents degrés de réalisation spirituelle. Ils distinguent ainsi trois phases dans l'élévation de l'âme vers la connaissance de Dieu. D'abord, l'âme gouvernée par ses passions. Le postulant à l'initiation qui est considéré comme étant à ce stade est appelé murid, novice, nouvel adepte ou tout simplement disciple. Vient ensuite le degré de l'âme qui se blâme elle-même, c'est-à-dire qui cherche à se corriger intérieurement. L'initié qui parvient à ce stade est appelé selik, voyageur, farsi, itinérant, allusion au symbolique voyage intérieur. Puis, le troisième et dernier niveau est celui de l'âme apaisée, réintégrée à l'esprit. Les soufis se sont organisés en confréries, toroq, pluriel de tariqa, c'est-à-dire chemin-voie, fondés par des maîtres spirituels, shuyukh, qui furent pendant un certain temps ou encore beaucoup aujourd'hui des descendants du prophète Mohammed par son cousin Ali et sa fille Fatima. Chaque soufi doit faire état d'une chaîne silsila qui le rattache par différents intermédiaires à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les voies spirituelles remontent de toute façon à Ali ibn Abi Talib et par conséquent au prophète. L'exercice spirituel que les soufis privilègent le plus est le dhikr, remémoration, souvenir. Il s'agit d'une pratique consistant à évoquer Allah, Dieu, en répétant son nom de manière rythmée et en restant centré sur sa pensée. Le dhikr est considéré comme une pratique transformatrice de l'âme, car on juge que le nom d'Allah possède une sorte de valeur divine propre qui agit profondément et intensément sur l'âme du musulman et du soufi. Les premiers groupes de soufis s'organisèrent à Koufa et à Bassora, dans l'Irak actuel, dès le 8e siècle de l'ère chrétienne, puis à Bagdad au 9e siècle. Le soufisme est surtout implanté dans les régions tardivement converties à l'islam, en Asie centrale, en Inde où il fut l'un des fers de lance de l'islamisation, et dans le monde turc, en Asie mineure et en Anatolie. C'est à cette époque qu'apparurent les premières confréries, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tasawuf, mais il était pratiqué plus individuellement. On peut également dire que le soufisme est un courant ésotérique qui professe une doctrine affirmant que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent, exotérique ou zahir, et un aspect intérieur caché, ésotérique ou batin. Il se caractérise par une forme de renoncement au bien matériel, ce qu'on appelle piétisme, et une volonté de recherche de l'extase, ou plutôt de l'extinction, al-fana, c'est-à-dire l'annihilation intégrale de l'ego, pour parvenir à la conscience de la présence de l'action de Dieu en soi. Le moi individuel devant être dans ce cas sacrifié pour laisser place à l'esprit, étincelle divine en l'homme. Le soufisme se présente alors comme l'aspect intérieur de l'islam. Les confréries soufis furent persécutées par certaines autorités du sunnisme car jugées hétérodoxes par certains docteurs de la loi musulmane et donc alliées au chiisme. Aujourd'hui encore, les courants les plus orthodoxes cherchent à diminuer l'influence des confréries soufis dans le monde, le soufisme étant considéré comme un instrument pour sortir du cadre d'une forme d'orthodoxie stricte et littérale. L'un des plus grands maîtres spirituels du soufisme, en fait pratiquement le premier, est le mystique persan Jamaluddin Rumi, qui a vécu au XIIIe siècle. La plupart de ses écrits lui ont été inspirés par son meilleur ami, Shamsuddin Tabrizi, qui était originaire de Tabriz, d'où son nom. Rumi était un extraordinaire voyant et un lumineux poète qui parlait au XIIIe siècle déjà de l'atome en des termes que ne désavouerait pas un physicien nucléaire d'aujourd'hui. Rumi fut contraint de fuir avec sa famille devant le cataclysme mongol de 1220-1222 qui rasa complètement l'Asie centrale. Il s'installe à Konya, capitale des Seldjoukides de Rome, ancien territoire romain, c'est-à-dire byzantin en Anatolie, d'où son surnom de Rumi, c'est-à-dire le byzantin ou le romain. Il existe une demi-douzaine de transcriptions du prénom Jalaluddin, ce qui veut dire « tantôt majesté de la religion de Jalal, majesté et din, religion et mémoire ». Shamsuddin peut être traduit par tout simplement « soleil de la religion ». Jalaluddin Rumi a également repris à son compte les fables d'Ésope, dans son principal ouvrage, le Masnavi, que La Fontaine retraduira partiellement à son tour en français. les Turcs et les Iraniens d'aujourd'hui continuent d'aimer ses poèmes. Reconnu de son vivant déjà comme un saint, Jalal ad-Din al-Rumi avait des prises de position assez révolutionnaires par rapport au pouvoir politique et aux dogmes musulmans de son époque. Il aimait à fréquenter les chrétiens et les juifs tout autant que ses frères en religion. Jalal ad-Din al-Rumi était également appelé Mawlana, prononcé en turc Mevlana, notre maître. Son nom est intimement lié à l'ordre des derviches tourneurs ou Mevlevi, une des principales confréries mystiques de l'islam qu'il fonda dans la ville de Konya, en Turquie. Nous terminerons cette émission en vous offrant ces deux poésies de Jalal ad-Din al-Rumi. Oiseau du jardin céleste, je suis un oiseau du jardin céleste. Je ne suis pas d'ici, de ce monde terrestre. On m'a fait une cage de ce corps mortel pour que dans la cage, quelques jours, je reste. La plainte de la flûte. Écoute la flûte de roseau et sa plainte comme elle chante la séparation. On m'a coupé de la jonchée et dès lors ma lamentation fait gémir l'homme et le calme. J'appelle un cœur que déchire la séparation pour lui révéler la douleur du désir. Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où il lui sera uni. Feu et mouvement, tel est le son de la flûte. Périsse qui n'a point cette flamme. Feu de l'amour dans le roseau, ardeur de l'amour dans le vin.
چشمی ترم شد نای فرم زن قدر خوب خانه ها آمد بجو زن قدر خوب خانه ها آمد بجو عالم چشمی ترم شد نای فرم زن قدر خوب خانه ها آمد بجو چشمی ترم شد مای فرم زن قدر خون خانه ها آمد بجو زن قدر خون خانه ها آمد بجو موسیقی نیزنت بر سنگومی بویت خمه نیزنت بر سنگومی بویت خمه علمت چشمی ترم شد میفرم علمت چشمی ترم شد میفرم زنگ در خون خانه ها آمد بجن زنگ در خون خانه ها آمد بجن زنگ در خون خانه ها آمد بجن در خون خانه ها آمد بجرد